VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h à Bamako, 15h à Kigali. Bonsoir, bienvenue. Au moins 6 personnes sont mortes aujourd'hui à Mogadiscio, en Somalie, dans un attentat suicide. Le kamikaze visait, selon la police citée par l'AFP, un convoi de l'ambassade des Émirats Arabes Unis. Au volant d'un véhicule piégé, il a percuté une voiture d'escorte d'un convoi de l'ambassade des Émirats. Même personne n'a été blessé au sein du personnel diplomatique, toujours selon la police. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a saisi la justice pour des cas de corruption des gestionnaires de l'État. Une plainte remise au parquet hier par son conseiller spécial pour la bonne gouvernance, Luzolo Bambi Lessa. Les explications du porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, au micro d'Eddie Isango.
Il s'agit du conseiller spécial du président de la République en charge de la lutte contre la corruption qui a déposé auprès du procureur général de la République un certain nombre de dossiers relatifs à la corruption. Étant donné qu'il y a une érosion sérieuse des moyens financiers de l'État à cause de ce phénomène, un retard dans le développement de ce pays, le parquet général de la République va entreprendre tous les devoirs d'instruction, entendre les personnes intéressées sur l'identité desquelles rien n'a été dit à cause du respect du principe de la présomption d'innocence qui fait que seul le parquet pourra communiquer ou rendre public l'identité des personnes concernées.
La RDC est 154e pays sur la liste des Transparency International. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
Ce qui vient d'être fait aujourd'hui est un pas de géant, toujours dans cette même bonne direction. Le président a institué un conseiller spécial, tout un service chargé de la lutte contre la corruption pour s'amuser. Il l'a fait pour mettre fin à ce fléau.
Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le Rwanda proteste avec véhémence contre l'arrestation à Londres du général Emmanuel Karenzi Karake, le chef des services de renseignement, suite à un mandat d'arrêt émis par la justice espagnole pour des faits ayant conduit à la mort de plusieurs ressortissants espagnols. De telles protestations sont-elles justifiées? La réponse du chercheur Hugo Sada, il est spécialiste des questions africaines à la Fondation pour la recherche stratégique, au micro d'Eddie Isango.
C'est un langage que je trouve un peu excessif de la part des autorités du Rwanda. Maintenant, c'est normal que cette rhétorique politique soit utilisée par les autorités rwandaises, mais la justice pénale internationale, elle obéit à des règles de droit. Donc, si le Rwanda estime que cette arrestation ne repose pas sur des fondements avérés, je pense que l'intéressé aura droit à une procédure judiciaire équitable. Et que si la preuve est faite de son innocence pour les faits qui lui sont reprochés, il n'y aura pas de suite. La procédure judiciaire engagée par les autorités espagnoles est liée à des faits qui concernent des ressortissants espagnols. Donc il n'y a aucune raison, motif judiciaire que la justice espagnole engage une procédure judiciaire pour crime contre l'humanité ou crime de guerre.
L'arrestation de M. Emmanuel Karenzi Karake, qui était en fait le chef des services des renseignements rwandais, ne fragilise-t-elle pas les régimes de Paul Kagame?
Je ne crois pas que le débat soit là et je ne crois pas que cette arrestation, elle a pour objectif ou pour arrière-pensée d'affaiblir ou de menacer le pouvoir de Paul Kagame. Je crois qu'elle obéit au droit, elle obéit au droit des victimes, mais qu'elle n'a pas pour objectif d'aller déstabiliser d'une manière ou d'une autre le régime rwandais.
Hugo Sada, spécialiste des questions africaines à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris. Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes annoncent la reprise imminente des rapatriements de réfugiés ivoiriens qui ont fui le pays lors de la crise post-électorale de 2010-2011 pour aller notamment au Ghana, au Togo, en Guinée, au Libéria. Un retour qui sera facilité par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Les détails avec Mohamed Askia Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire.
Effectivement, le gouvernement ivoirien a donné son feu vert pour le rapatriement des réfugiés ivoiriens qui sont encore dans les pays d'exil et qui sont surtout dans la sous-région, à savoir le Libéria, le Ghana, le Togo et la Guinée. Donc, on évalue le nombre à peu près 60 000 personnes.
Il y avait jusque-là un blocage. Est-ce que les blocages sont levés?
Le blocage qui avait empêché le retour de ces réfugiés ivoiriens était lié à la crise Ebola. Donc, la crise Ebola qui sévit dans la sous-région depuis plus d'un an a effectivement été un frein pour le rapatriement de ces derniers. Mais à partir du 9 mai 2015, Ebola a été déclaré vaincu au Libéria. Donc c'est ce qui explique le déblocage de la situation et la décision du gouvernement ivoirien de permettre le retour le plus rapidement possible de ces réfugiés au Libéria.
Alors parmi ces réfugiés, il y avait des réfugiés politiques. Les obstacles politiques sont-ils levés pour le retour de ces personnes?
Bien entendu, le rapatriement est ouvert à tous les réfugiés ivoiriens, quel que soit leur appartenance politique, leur appartenance ethnique. Je dis que c'est un blocage qui n'existe pas. Donc toute personne qui se sent l'envie de revenir dans son pays d'origine peut se prévaloir de ce droit. Et cela se fait effectivement sous les auspices du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en collaboration avec le pays d'origine et le pays d'origine.
Mohamed Askia Touré, représentant du Haut Commissariat aux réfugiés en Côte d'Ivoire, au Mali. Le gouvernement a signé un contrat de concession pour la réalisation du barrage hydroélectrique de Kenyé d'un montant de 72 milliards de francs CFA. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, tout sera mis en œuvre pour la bonne exécution de ce projet. Mamadou Frankali Keïta.
Centrale hydroélectrique au fil de l'eau, elle sera équipée de trois groupes totalisant une puissance installée de 42 MW, dont 34,5 MW garantis et un productible moyen de 188 GWh par an. Elle est destinée à être raccordée au système électrique interconnecté du Mali, dont elle devra contribuer à la baisse du coût de production de l'électricité.
Avec une puissance installée de 42 MW, cet aménagement hydroélectrique doit relever le défi énergétique au Mali. Marc Alebora, directeur du groupe Aéronovic.
Ce barrage hydroélectrique produira une énergie renouvelable au profit des populations maliennes, correspondant à la consommation annuelle moyenne de 175 000 foyers. Nous sommes particulièrement fiers et heureux de contribuer à travers ce projet à la politique nationale du renforcement des infrastructures de la République du Mali.
La signature de ce contrat de cession est le couronnement de plusieurs années de travail entre le ministère de l'Énergie et de l'Eau du Mali et IFES, International Finance Corporation, membre du groupe Banque Mondiale, leader dans le financement d'énergie renouvelable dans les pays émergents. Alain Ebolizé, responsable mondial de IFES.
Et je crois qu'à travers le projet Kenyé, nous avons déjà mobilisé une société importante comme le groupe Eranov, mais également nous apporterons d'autres financiers qui travailleront à nos côtés avec le gouvernement du Mali pour financer ce projet selon la formule des partenariats publics-privés.
Le Mali apportera sa part dans la construction de ce nouveau barrage. Les travaux de cette nouvelle infrastructure hydroélectrique démarreront en 2016. La mise en service de la centrale est prévue en 2020. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
En France, l'Élysée qualifie d'inacceptable les allégations selon lesquelles les États-Unis auraient mis sur écoute le président François Hollande et ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, et souligne la détermination du gouvernement français à ne tolérer rien qui menace la sécurité du pays. Propos contenus dans le communiqué de la présidence française après la réunion de François Hollande avec son conseil de défense aujourd'hui pour discuter des révélations de WikiLeaks relayées par le quotidien Libération. Le ministère français des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur américain à Paris, Jane Hartley, au Quai d'Orsay pour une demande d'explication. Côté américain, la Maison-Blanche a assuré hier soir que les États-Unis ne ciblaient pas les communications du président Hollande et ne le feraient pas. Ici même aux États-Unis, la chasse à l'homme s'intensifie pour retrouver Richard Matt et David Sweet, deux condamnés pour meurtre qui ont réussi une évasion spectaculaire dans l'État de New York. Les autorités ont de nouvelles pistes. Lionel Gaïman.
En effet, on a trouvé des traces d'ADN de l'un d'entre eux dans une cabane de chasse à quelques 60 km de la prison Clinton de Dannemora, dans l'État de New York, d'où ils se sont échappés le 6 juin dernier. Il est vrai que depuis le début de l'enquête, plus de 2000 pistes ont été étudiées. Ce mardi, l'opération a pris de l'ampleur. Elle implique maintenant plus d'un millier d'agents de l'ordre, policiers, locaux et fédéraux, gardes-chasse, membres du personnel pénitentiaire, chiens dressés et des hélicoptères. Selon la presse américaine, un des deux fugitifs serait pieds nus alors qu'il fuyait de la cabane où ils auraient été repérés quelques heures plus tôt. Richard Matt, 49 ans, et David Sweat, 35 ans, sont donc toujours en cavale, plus de deux semaines après leur fuite de cette prison de haute sécurité. Ils font désormais partie de 15 fugitifs le plus recherchés par la police américaine et les autorités ont offert une prime de $100 000 pour toute information permettant leur arrestation.
Et le gouvernement des États-Unis ne va plus menacer de poursuites judiciaires les familles d'Américains pris en otage à l'étranger qui essaient de négocier avec les ravisseurs ou de payer des rançons pour leur remise en liberté. Un nouveau développement qui devrait être rendu public aujourd'hui par le président Barack Obama quand il présentera à la Maison-Blanche un examen approfondi de la politique américaine dans ce domaine. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Bion à ce microphone. Rendez-vous dans moins d'une heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.